Un journal présenté ce soir par Marc Potvin. Bonsoir Marc.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. C'est non, Jean Castex refuse d'assouplir le couvre-feu en vigueur dans quelques heures au bénéfice du monde du spectacle. Un assouplissement pourtant défendu par la ministre de la Culture. C'est la première fois que le Premier ministre affirme son autorité en public. Décryptage dans un instant. Nous serons aussi à Berlin où un tribunal donne raison aux propriétaires de cafés et restaurants. Il annule les restrictions nocturne qui les vise. Restrictions pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy à nouveau mis en examen dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette fois-ci pour association de malfaiteurs. Les négociations commerciales post-Brexit qui se compliquent encore, elles sont finies à moins d'un changement fondamental de la part des Européens, menace brandie par le Premier ministre du Royaume-Uni. Et puis nous serons à l'Assemblée, enquête de la rédaction sur les violences sexuelles au Palais Bourbon et les moyens mis en œuvre pour y faire face. Il reste des progrès à faire. Dernière soirée avant le couvre-feu à Paris dans sa région et 8 autres métropoles comme Lyon, Lille ou encore Toulouse. La nouvelle règle entre en vigueur à partir de minuit. Plus question d'être dehors entre 21h et 6h du matin. À l'approche de cette échéance, des voix se sont élevées pour demander un assouplissement. Un assouplissement qui permettrait aux spectateurs de théâtre ou de cinéma de rentrer chez eux après 21h. Parmi ces voix, celle de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Finalement, le Premier ministre Jean Castex a tranché à la mi-journée.
Je crois qu'il nous faut des règles très claires et très simples, et ces règles doivent être les mêmes pour tous. Je l'ai dit hier lors de la conférence de presse, le couvre-feu c'est à partir de 21h, tout le monde doit être chez soi à 21h, sauf des exceptions très précises que j'ai énumérées hier. Donc je suis sûr que tout le monde va s'adapter, y compris le monde de la culture dont je connais les difficultés. Mais pour que des règles soient comprises, pour que des règles soient acceptées, il faut qu'elles soient les mêmes pour tous.
Jean Castex lors d'un déplacement à Lille aujourd'hui. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir.
C'est la première fois que le chef de gouvernement fait acte d'autorité en public.
Oui, c'est en effet la première fois. Début septembre, Jean Castex avait essayé de régler le conflit qui opposait alors Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti autour de la question de l'ensauvagement de la société. Le Premier ministre avait tenté de recentrer le débat sur la question de l'insécurité, peine perdue, puisque c'est Emmanuel Macron qui avait dû siffler la fin de la partie en Conseil des ministres. Aujourd'hui, Jean Castex a tranché dans le vif, alors que Bruno Le Maire s'opposait à Roselyne Bachelot à propos d'un éventuel assouplissement du couvre-feu pour les salles de spectacle, la ministre de la Culture réclamant que l'on puisse aller au théâtre et au cinéma jusqu'à 21h, le ticket faisant office de justificatif. Pas question, dit Jean Castex, il faut que la règle soit la même pour tous. Cet acte d'autorité intervient quelques jours après une déclaration qui avait surpris sur l'antenne de France Info, c'était lundi dernier. Jean Castex affirmait « Je ne suis pas ici pour plaire, je n'ai pas la main qui tremble, c'est moi le patron, dont acte ». Reste que son message n'imprime pas dans l'opinion publique. Son action est jugée défavorable par un Français sur deux. De plus, il peine à imposer son style au sein même de la majorité. Ou quoi qu'il fasse, ou quoi qu'il dise, tout le ramène à son prédécesseur.
Pierre Neveu, merci. Cette fin de non-recevoir du Premier ministre, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour de nombreux acteurs du monde du spectacle. Sentiment partagé par Erwan Escoubé, le directeur des affaires réglementaires et institutionnelles à la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français.
Pour nous, on est très déçus et surtout très inquiets parce que ces séances du soir, c'est 50% de la fréquentation et que on pense que sans ces séances qui ne pourront pas se réorganiser parce qu'en dehors des périodes de vacances, on peut pas attendre que les spectateurs quittent leur travail à 17h pour aller voir un film à 18h ou être rentrés à temps chez eux avant le couvre-feu. Donc ces séances, elles vont disparaître. Et si ces séances, elles disparaissent, on a bien peur que beaucoup de films et de films importants, qu'ils soient tout simplement, et on peut comprendre les distributeurs, déprogrammés. Et ça aboutira à la fermeture d'un certain nombre de salles de cinéma, voire même beaucoup de salles de cinéma, et pas uniquement dans les zones en couvre-feu, sur tout le territoire, parce que nous, on a un marché qui est un marché national, et que tout ce qui sort à Paris, il doit sortir d'abord à Paris, pour être vu ailleurs dans le monde. Vous savez, c'est comme la situation de New York où tous les cinémas sont fermés. Ben, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus un seul film américain nulle part. Là, ça sera la même chose dans ces conditions. On peut essayer de garder espoir en se disant que cette politique fonctionnera et que la capacité d'accueil des hôpitaux sera à nouveau élargie au mois de décembre et donc on pourra faire cesser ces mesures. Alors, on peut l'espérer, voilà, on peut faire que ça. Mais t'as craint quand même que le problème de la déprogrammation des films, qui risque d'avoir un effet de cercle vicieux, produise un difficulté durable de fonctionnement de l'ensemble du secteur.
Erwan Escoubé, le directeur des affaires réglementaires et institutionnelles à la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français, il répondait à Maxime Tellier. Si les patrons de cinéma et d'autres font grise mine en France, à Berlin, les propriétaires de bars et de restaurants retrouvent le sourire. Ils sont plusieurs à avoir contesté en justice les restrictions nocturnes qui les concernaient, à savoir fermer tous les jours entre 23h et 6h du matin. Ces restrictions sont finalement annulées. Nathalie Versieux.
Au printemps, déjà, un juriste en vue avait averti du risque d'une cascade de procès contre les autorités qui adopteraient des mesures trop restrictives pour les libertés individuelles. En quelques jours, plusieurs tribunaux ont retoqué les mesures sanitaires draconiennes adoptées par les Länders, comme à Berlin où le tribunal administratif a suivi l'argumentaire des 12 propriétaires de bars et de restaurants qui venaient de déposer une plainte groupée contre le couvre-feu sur l'alcool, les obligeant à fermer entre 23h et 6h du matin depuis une semaine. La mesure est disproportionnée par rapport à l'effet qu'on pourrait en attendre, a tranché le tribunal. Même argument pour un tribunal du Bade-Württemberg qui a annulé jeudi l'interdiction de loger les Allemands originaires de zones rouges pour les hôteliers ou les propriétaires de maisons de vacances. Ces tribunaux estiment que les autorités n'ont pas apporté la preuve que bars et restaurants ou hôtels étaient un moteur important de l'infection. C'est un coup dur pour la lutte contre la pandémie, à l'heure où Angela Merkel voudrait durcir un peu plus encore l'arsenal sanitaire. Le nombre des malades du Covid dans les hôpitaux double chaque jour à l'heure actuelle, autour de 600 personnes ce matin.
Nathalie Versieux, correspondante de France Culture à Berlin. Le but de ces mesures retoquées en Allemagne, c'est d'endiguer la pandémie de coronavirus. De ce côté-ci du Rhin, Santé publique France fait part de sa préoccupation puisque l'épidémie de Covid-19 continue à se diffuser des plus jeunes vers les plus âgés. L'organisme fait ce constat dans son dernier bulletin épidémiologique. Il y a aussi du mieux puisque les délais des tests de dépistage tendent à s'améliorer. Au Sénat, ce sont une centaine d'élus qui ont été testés avant-hier, des tests PCR mais aussi sérologiques. 12 sont revenus positifs, révèlent aujourd'hui nos confrères de France Info. Un sénateur est hospitalisé. L'un des présidents de groupe avance la piste de contamination lors de la campagne des sénatoriales. De nouveaux tests sont prévus la semaine prochaine. Lui a dirigé la France pendant 5 années. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Mon innocence est à nouveau bafouée par une décision qui ne rapporte pas la moindre preuve d'un quelconque financement illicite, réagit l'ancien président. Delphine Gotcho, c'est sa 4e mise en examen dans ce dossier judiciaire.
C'est une première dans les annales judiciaires de la 5e République. Un ancien chef de l'État mis en examen pour association de malfaiteurs. Depuis mars 2018, Nicolas Sarkozy était déjà mis en examen, notamment pour corruption, avec ses avocats et plusieurs autres personnes impliquées dans ce tentaculaire dossier comme Claude Guéant. Il avait contesté devant la justice la validité de cette procédure ouverte il y a 8 ans. Mais le 24 septembre, la Cour d'appel de Paris valide la quasi-intégralité de l'enquête. Dans un arrêt, on lit notamment ces mots sans appel. À compter de 2005, le principe d'un financement occulte par les autorités libyennes a été acquis. Des fonds, notamment en espèces, ont été remis en France à plusieurs reprises. Intermédiaires sulfureux, valises remplies de cash, tentative d'assassinat en Afrique du Sud de l'ancien directeur de cabinet de Muammar Kadhafi, détenteur des secrets franco-libyens. Cette nouvelle mise en examen de Nicolas Sarkozy sonne comme l'épilogue de cette affaire qui a décidément tout d'une affaire d'État.
Delphine Gotcho, un moment attendu aujourd'hui au procès de Sid Ahmed Glam à la cour d'assises spéciale de Paris. Cet homme, jugé avec une dizaine d'autres personnes pour l'attentat avorté contre une église de Villejuif en 2015, Sid Ahmed Glam également accusé de l'assassinat d'Aurélie Châtelain, ce qu'il nie. Cette mère de famille a été tuée sur un parking de cette ville du Val-de-Marne avant que ce projet d'attentat ne tourne court. Sa famille a donc été entendue ces dernières heures, Anne Fauquemberg.
Michael Bazin, l'ex-compagnon d'Aurélie Châtelain et père de leur fille unique, Juliette, aujourd'hui 10 ans, a tenu à s'exprimer en premier. Un père qui se débat depuis 5 ans pour que sa fille tente d'avoir une vie normale et qui, sans regarder les 5 hommes à sa droite dans le box sécurisé, leur lâche. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des parloirs, mais si vous avez des enfants, profitez-en. Moi, quand ma fille veut un câlin de sa mère, on va au cimetière. Puis c'est Jean-Luc Châtelain, le père de la victime. Il raconte avec pudeur le traumatisme de chaque membre de la famille et la tentative de suicide de Blandine, une autre de ses filles. « Nous, la peine, on l'aura jusqu'à la fin de notre vie », dit-il abattu à la présidente. Xavier Simeoni laisse parler Nathalie Châtelain, la belle-mère d'Aurélie, qui dit être toujours en dépression. Puis elle écoute Blandine développer l'admiration qu'elle porte toujours pour sa sœur, avant de se tourner vers l'accusé. Que ressentez-vous quand vous entendez l'émotion de la famille ? Sid Ahmed Glam se lève, présente ses condoléances, il ne manque pas de mots, empathie, compassion, douleur, tristesse. Mais dans le box, un autre accusé, Abdelkader Jalal, s'énerve et le coupe. Ferme ta gueule, avoue, et qu'on n'en parle plus.
Compte rendu d'Anne Fauquemberg. Le Premier ministre du Royaume-Uni hausse le ton. En l'absence de changement fondamental de l'Union européenne, les négociations commerciales post-Brexit n'iront pas plus loin. Avertissement lancé malgré la menace d'un no deal au 1er janvier, une fois la période de transition terminée. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Correspondante de France Culture à Bruxelles. Les discussions se sont envenimées après la fin aujourd'hui d'un sommet européen. Sommet où les 27 ont affiché leur fermeté.
Oui, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont été clairs aussi. D'accord, pour continuer à négocier, mais à condition que Londres bouge ses lignes rouges. Et pour marquer leur fermeté, ils demandent à la Commission, dans leur conclusion de leur sommet, d'intensifier ses préparatifs en cas de non-accord, en préparant de nouvelles mesures d'urgence. Chacun donc campe sur ses positions. Et contrairement à ce que Londres fait croire, il n'y a pas que sur la pêche qu'il faut progresser. C'est ce qu'a indiqué le président français Emmanuel Macron.
L'état de nos discussions n'est pas que nous serions en train d'achoper sur la pêche, ce qui est l'argument tactique des Britanniques, mais nous achopons sur tout. Aujourd'hui, notre principal problème, le premier, c'est des règles de concurrence loyale. Or, aujourd'hui, ce qui est sur la table, la proposition britannique, c'est accès au marché européen sans respect des règles.
Et sur la pêche, eh bien, les Européens se sont dit prêts hier à discuter sans pour autant sacrifier leurs pêcheurs. Si Londres misait sur une division des 27 sur ce sujet, ils se sont trompés, souligne-t-on régulièrement de sources françaises. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, l'équipe des négociateurs, menée par Michel Barnier, se dit toujours prête à se rendre à Londres dès lundi, et cela malgré les déclarations du Premier ministre britannique. Mais nous ne sommes pas pour un accord à tout prix, a rappelé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Quant à Emmanuel Macron, il a précisé que les 27 avaient donné 2 semaines aux négociateurs pour avancer. On maintient donc une forte pression des deux côtés de la Manche et comme nous a habitué cet interminable feuilleton du Brexit, eh bien, nul ne peut prédire comment cela va se finir.
Angélique Bouin, merci. Son M jaune est visible dans le monde entier ou presque. McDonald's, dénoncé en France par certains de ses salariés et ex-salariés. Une manifestation a eu lieu à la mi-journée devant son siège social à Guyancourt, près de Paris. Mobilisation avec l'appui des syndicats du géant de la restauration rapide. À l'origine, le collectif des salariés McDroit, il a recueilli plus d'une centaine de témoignages de harcèlement dans l'entreprise. Sarah Ders.
Des remarques déplacées ou sexistes aux violences sexuelles les plus graves. 114 témoignages, parfois accablants, mettent en cause les dérives du management chez McDonald's. Parmi eux, Martine, ancienne responsable juridique, dénonce des méthodes qu'elle a elle-même appliquées.
J'ai pas pu en parler au début parce qu'il l'a fait qu'une fois, il l'a pas recommencé. On se sent coupable, là, c'est toujours pareil. Moi qui ai tellement défendu de gens sur le harcèlement, l'être soi-même, c'est terrible. J'ai déjà subi un harcèlement moral, très difficile par une directrice. Et j'étais pas du tout aidée ni par McDo, ni par mon franchisé.
Face à ces situations qui ont des répercussions sur la santé mentale des employés, Maïlis, salariée et porte-parole du collectif McDroit, dénonce l'apathie de la hiérarchie qui, selon elle, ne propose qu'aux victimes présumées des mutations dans d'autres restaurants.
Les référents ne savent pas écouter ou alors disent que c'est juste une blague, etc. Parce que voilà, McDo, c'est la bonne famille, c'est la bonne ambiance, donc il ne peut pas y avoir de harcèlement en fait. Dans la liste des revendications, on veut aussi un système de sanctions transparent, parce que là, c'est pas le cas du tout.
La chaîne de restaurants assure, elle, lutter contre tous les comportements inadmissibles.
Un reportage de Sarah Ders. Les violences sexuelles au cœur de l'enquête de la rédaction ce soir. Des violences qui ne s'arrêtent pas aux portes des lieux de pouvoir. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
C'est vous qui co-signez cette enquête avec Léa Guedge. Vous vous êtes intéressée à la manière dont l'Assemblée nationale s'est attaquée au problème.
Oui. En février dernier, une cellule d'aide aux victimes de violences sexuelles a été créée à l'Assemblée nationale sous la pression des syndicats et d'un collectif appelé « Chères collaboratrices ». Cette cellule traite les signalements qui lui sont remontés et pour cela, elle a recours à deux prestataires extérieurs qui fournissent une assistance psychologique et juridique. Mais en 8 mois de fonctionnement, le résultat est maigre. Aucun cas de harcèlement sexuel n'a été signalé. Il n'y a eu, si je puis dire, que des cas de harcèlement moral. Michel Ledoux, le responsable du pôle juridique de la cellule, s'en étonne.
C'est une énigme. Hein ? Quelle est l'explication ? La cellule n'existant là encore que depuis le mois de février, peut-être qu'il est pour l'instant plus facile de dénoncer de la maltraitance managériale sous l'angle harcèlement moral que sous l'angle harcèlement sexuel. Peut-être, bon. Il y a également à l'Assemblée donc cette fameuse association, la chère collaboratrice, qui est peut-être le réceptacle, parce que ce sont des femmes, de ce genre de signalement.
Le collectif Chères collaboratrices serait donc plus efficace que la cellule officielle. Et effectivement, Mathilde Julliet-Viaud, la cofondatrice de cette association, affirme que si la cellule de l'Assemblée n'est pas saisie, son collectif à elle reçoit encore de son côté des témoignages de collaborateurs de députés qui se disent harcelés.
Un député dans l'ascenseur qui explique qu'il va pouvoir s'envoyer en l'air avec une collaboratrice avant qu'elle ne redescende. Ou bien sinon des regards insistants assez réguliers de députés qui font que les personnes se sentent suffisamment mal à l'aise pour venir nous parler.
Et donc lorsque ça se produit, Laetitia, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il existe deux options. Soit signaler les faits au parquet, soit saisir la déontologue de l'Assemblée. Mais c'est suivi de peu d'effets, nous dit Michel Ledoux, le responsable du pôle juridique de la cellule de l'Assemblée.
Lorsqu'on prévient la déontologue de quelque chose qui serait du harcèlement, logiquement, derrière, il devrait y avoir quand même quelques investigations, parce que l'info qu'on leur communique, nous, c'est non contradictoire. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui permette d'entendre la personne accusée de harcèlement, entendre ses explications, et si ces explications sont vaseuses, éventuellement, prévenir le procureur de la République.
Et ça, la déontologue de l'Assemblée estime que ce n'est pas son rôle.
On est donc encore loin du compte.
Oui, d'autant que ce qui frappe Mathilde Julliet-Viaud du collectif Chères collaboratrices, c'est que le renouvellement en 2017 de l'Assemblée nationale n'aurait pas fait changer les comportements des députés.
Là, on a l'impression de voir de jeunes loups débarquer, complètement persuadés d'eux-mêmes et assez forts de leur arrogance. Et avec ça, toute la panoplie des comportements sexistes, ça va de main aux fesses à des propos vraiment déplacés. Il y a aussi ce truc-là de la camaraderie, c'est-à-dire de la jeunesse qui a l'impression de sortir en fait d'une sorte de BDE d'école de commerce et qui se comporte avec ses collaboratrices comme si c'était en fait la fête tous les jours et même que je te claque sur les fesses et voilà. Et donc il y a cette forme de porosité-là entre les genres qui permet à ces messieurs d'avoir ce type de comportement de façon beaucoup plus décomplexée qu'avant.
Le problème se pose effectivement, quel que soit l'âge. Merci Laetitia Chérel. Votre enquête avec Léa Guedge est à retrouver sur franceculture.fr. Nous restons à l'Assemblée, dont l'un des 10 groupes politiques devrait disparaître. Écologie, démocratie et solidarité, c'est son nom. Il passe en effet sous le seuil des 15 députés nécessaires pour être constitué en groupe. Conséquence du départ d'une de ses membres, Jennifer de Témerman, élue dans le Nord. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
C'est un très jeune groupe qui devrait donc disparaître. Il a été créé il y a 5 mois.
Un groupe dissident de La République En Marche à la gauche du parti présidentiel. Parmi ses faits d'armes, la proposition de loi allongeant le délai légal d'accès à l'IVG qui a été votée. Mais Jennifer de Témerman estime que ce groupe ne prend pas la direction souhaitée. Elle rejoint donc Libertés et Territoires, un autre groupe, cette fois clairement dans l'opposition, avec des députés du centre droit et du centre gauche. EDS risque donc tout simplement de disparaître, ce qui signifie pour les 14 députés qui en font encore partie, siéger parmi les non-inscrits et donc avoir moins de temps de parole dans l'hémicycle, moins de ressources, bref, avoir moins d'impact. C'est pourquoi du côté d'EDS, on s'active pour tenter de trouver un remplaçant à Jennifer de Témerman, Paul Forteza, coprésidente du groupe.
Nous avons encore jusqu'à demain matin pour essayer de trouver un 15e membre. Donc, nous sommes actuellement en train de contacter certains collègues pour essayer de sauver notre groupe. On a évidemment certaines pistes qui doivent nous répondre d'ici demain et on continue à se mobiliser. Nous, on va continuer à travailler tous ensemble. Cette dynamique collective, elle va rester. On va continuer nos réunions de groupe dès mardi prochain et on va rester soudés. C'est-à-dire que les décisions politiques qu'on prendra dans les prochaines semaines, on les prendra tous ensemble.
C'est-à-dire vous continuerez vos réunions de groupe même si le groupe n'existe plus?
Voilà. Rien va nous arrêter. On aura moins de ressources, moins de temps de parole, mais nos combats restent les mêmes. Notre travail de fond va rester le même et notre méthode de travail collective aussi.
Vous l'aurez compris, on ne se berce guère d'illusions du côté d'EDS. Trouver un 15e membre d'ici demain matin relève de la gageure. De son côté, Jennifer de Temmermans, que nous avons sollicité, n'a pas souhaité s'exprimer.
Antoine Marette, merci. Le temps demain matin, une alternance de nuages et d'éclaircies de la pointe bretonne aux confins de la Nouvelle-Aquitaine. Du soleil sur l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ailleurs, c'est de la grisaille. Dans la journée, les maximales seront entre 12 degrés sur le nord et 21 sur la Provence.